Bonjour ou bonsoir. Ici, la parole est à vous. Sur le thème de l'environnement avec Jean-Joseph Maglia. Et nous recevons aujourd'hui pour une deuxième émission Marc Benoît.
Bonjour.
Voilà. Je te laisse te représenter nouveau pour les nouveaux auditeurs éventuels. Et puis, voilà.
Agronome, Vosgien depuis 1982, donc ça commence à faire quelques années, et passionné par les thématiques reliant l'agriculture aux enjeux environnementaux, et on le verra aujourd'hui aux enjeux liés à l'alimentation de nos citoyens.
Santé, à la fois santé et environnement.
Exactement. Et les deux sont bien liés. Nos collègues anglo-saxons ont même inventé le concept de une seule santé, one health,
Voilà.
pour relier le bonheur des salamandres au nôtre.
Voilà, en tout cas, la biodiversité, l'agriculture, notre manière de nous nourrir contribuent ou pas à la biodiversité.
Clairement.
Nos choix, en tout cas, en matière, en tant que consommateurs, et aussi le rôle des élus dans cette alimentation qui est la nôtre, le rôle des politiques diverses.
Et ce rôle des élus, en fait, a toujours existé. Alors, si on prend l'alimentation des humains, donc premier aliment d'un humain, c'est l'eau. Enfin, nous sommes des mammifères et on a besoin de s'hydrater régulièrement. Et sur cette eau potable, eh bien, les élus ont toujours eu la responsabilité multiséculaire d'assurer l'alimentation en eau potable pour l'ensemble de leurs citoyens. Et sur l'alimentation, après une période qui a été assez, on va dire, peu riche en pression sur les élus, une loi récente, donc la loi s'appelle EGalim, a remis au goût du jour le fait que la responsabilité des élus est importante sur l'alimentation, au moins des citoyens sur lesquels ils ont responsabilité. Donc, pour faire très simple, ce sont essentiellement, si on prend les élus communaux, les élèves d'école maternelle et
Cantine.
primaire dans les cantines, voilà. Et puis, les résidents, qui sont des anciens élèves, hein, nos anciens dans les EHPAD publics. Et entre les deux, tranche d'âge, eh bien, collège, là, la responsabilité, c'est du département,
Département.
avec l'alimentation des cantines dans les collèges. Et d'autres élus interviennent cette fois-ci pour les lycées, avec eh bien, toutes les cantines des lycées de la région. Parce que les lycées sont sous responsabilité des élus régionaux. Et donc, quoi qu'il arrive, en prenant des échelons d'élus différents, plus on vieillit, on rencontre différents élus, on va dire ça comme ça, dans son assiette de cantine. Mais eux savent bien, les élus, qu'ils ont en charge ce qui arrive dans les cuisines et dans les assiettes des élèves.
Et les Restos U, c'est la responsabilité de l'État, là, c'est
Alors
ça?
voilà, on monte d'un cran, mais c'est les Crous et qui sont en charge d'alimenter donc les très grands étudiants.
Voilà, donc du coup, effectivement, cette alimentation, donc l'eau potable, hein, actuellement, c'est tout un sujet tout à fait d'actualité dans les Vosges, avec ce problème des PFAS dans un certain nombre de communes. Après, sur l'eau, effectivement, il y a eu une époque où il y avait de l'eau publique, on va dire, mais il y avait aussi des sources privées, etc. Finalement, ces sources, petit à petit, ont été parfois même de manière un peu autoritaire, fermée. Hein. Il y a les normes d'eau potable qui sont une pression pour les communes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs que pour les PFAS, certaines communes, comme par exemple la commune de Chandray, avaient refusé l'épandage des boues. À l'origine de cette pollution par les PFAS, mais la préfecture les a obligés, hein, finalement.
Oui. Alors, si je fais tout petit peu d'histoire en deux minutes. On a vécu, et les élus ont été très concernés au cours du temps, on a vécu en fait trois phases très différentes. La première phase, ça a été de faire en sorte que par quartier dans les villes ou par village dans les villages, les morceaux d'habitation, les hameaux, puissent tous disposer d'un lavoir et d'une fontaine. Donc en fait, c'était très simple. La fontaine, c'était pour alimenter les humains et les animaux, qui boivent beaucoup. Hein, une vache laitière, c'est 80 litres par jour, voilà. Et donc, dès qu'on avait une vache dans un village, il fallait chacun penser à ses 80 litres. Et le deuxième point, pourquoi l'avoir ? Eh bien, parce que quand on voulait laver le linge et tout ce qui était à laver dans une maison, eh bien, il fallait avoir de l'eau propre disponible. Et donc ça, c'était la première obligation des communes de faire fonctionner des lavoirs et des fontaines. Et donc, pour revenir à ta remarque, c'est vrai qu'on a eu la deuxième phase qui a été celle des adductions en eau potable. Et là, on cohabitait le fonctionnement des fontaines et des puits privés parce que pour se simplifier la vie, eh bien, nombre de maisons se sont équipées soit parce que les sources étaient toutes proches, soit parce qu'en creusant, on avait un bon puits, de leur propre alimentation en eau avant qu'arrivent les réseaux d'eau. Et les réseaux d'eau potable mis en place par les communes ont dû se rentabiliser. C'est-à-dire qu'il fallait bien amortir tous ces tuyaux.
C'était un investissement important.
Voilà, hein, c'était vraiment le gros investissement des communes.
Et en plus, donc, c'est arrivé en même temps que le problème des conduites au plomb. Hein, donc avec le saturnisme, donc, les deux ont joué en même temps pour finalement remettre, supprimer le plomb, rendre les eaux moins acides. Donc du coup, la norme est intervenue, traitée, voilà.
Et avoir un réseau, voilà. Et avoir un réseau communal d'alimentation en eau potable. Et à l'amont de tout cela, donc pour finir l'histoire, l'histoire commence toujours dans des sources ou dans des captages, dans des alluviales de rivières, hein, des nappes alluviales de rivières. Et les communes étaient chargées aussi de faire en sorte que toutes les chambres de captage soient propres, qu'il y ait un fontainier qui vérifie que tout se passe bien, jusqu'à, et c'est une problématique actuelle très importante, évaluer les fuites dans les réseaux. C'est-à-dire que, comme tout le monde maintenant a l'eau au robinet, donc ce qui nous semble complètement normal quand on ouvre un robinet, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a avant ce petit geste tout simple. Et les communes, en ce moment, donc, et c'est la phase actuelle,
sont très
attentives à deux points. Quand l'eau est de bonne qualité à la source, eh bien, c'est de la maintenir de bonne qualité, voilà. Et dans les Vosges, nos forêts nous permettent d'avoir encore des captages qui produisent de l'eau de très très bonne qualité. Et là où la qualité n'est pas bonne, eh bien, c'est de faire en sorte que dans l'aire d'alimentation de captage, on fasse tout ce qu'il faut pour que l'eau s'améliore.
Alors je complète juste un petit peu. Donc il y a ce qui se passe en amont du robinet et aussi ce qui se passe en aval. Parce que c'est aussi l'obligation des communes de gérer les eaux usées. Sauf quand, effectivement, le réseau n'est pas possible et qu'on passe à l'assainissement individuel. Autrement, je voulais parler aussi, donc... Zut, ça m'a échappé. Vas-y, continue.
Non, mais c'était pour revenir sur ces différentes phases par rapport à l'eau. Et on en arrive maintenant à l'étape actuelle où on tente quand même le plus possible déjà de sauvegarder les captages actuels. Et je pense que l'avenir, et là, sera la tâche de beaucoup d'élus, l'avenir, c'est de reconquérir une très bonne qualité d'eau dans des captages où elle est à l'heure actuelle dégradée.
Alors l'avenir qui est aussi l'actualité, c'est la mutualisation. Avec le passage des compétences justement au potable au niveau intercommunal. Alors après, c'est pour certains villages, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est pas toujours bien accepté, mais c'est la mutualisation, c'est le fait quand même que, à notre époque, il est assez inadmissible que certaines communes se retrouvent en pénurie d'eau en période de sécheresse et que la commune d'à côté, finalement, est en excès d'eau potable. Hein. Après, donc, maintenant, les compétences eau potable sont passées au niveau des communautés d'agglomération, communautés de communes. Après, on n'a pas encore un maillage territorial relié tous les villages pour mutualiser les sources. Ça se fait dans certains endroits, mais ça ne se fait pas partout parce qu'il y a quand même derrière un coût important de pose de canalisation. Hein.
Oui, oui. Et puis, on a, pour moi, il y a deux difficultés. Alors, la première, c'est qu'un certain nombre d'élus, donc de maires ou d'adjoints, se sont passionnés pour leurs eaux. De leur village. Et donc, il y avait une compétence et une passion à faire attention
à
notre eau. Voilà, c'est ça. Et la deuxième difficulté, et ça, ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt un atout. Il faut garder ses envies, d'avoir envie de protéger l'eau. Et le deuxième, par contre, là, c'est une difficulté, c'est que les limites administratives construites par les humains n'ont rien à voir avec les limites de l'eau. Et donc, on peut avoir une communauté de communes qui va être malencontreusement sur deux bassins versants, avec deux vies complètement différentes, qu'il faudra faire vivre ensemble, parce que, on a décidé de vivre ensemble dans le cadre d'une communauté de communes, mais les enjeux eau se joueront de façon complètement contrastée. Et donc, ça, c'est un vrai dilemme, j'allais dire. Les humains se construisent leur maison de responsabilité collective, j'allais dire, en pensant d'abord à eux. Mais l'eau, elle a des vies qui vit sans penser aux humains.
On pourrait même aller plus loin, effectivement, parce qu'en fait, la compétence pourrait même être à l'échelle départementale ou à l'échelle des bassins versants, justement, hein, à travers l'agence de l'eau, par exemple. Hein, tout à fait. Hein.
Et c'est une particularité de pas seulement de notre pays, mais de beaucoup de communes européennes. C'est comment vivre les enjeux, par exemple, là, on parle de l'eau comme un des éléments majeurs, et vivre quand même nos limites administratives. Et ça, c'est une tension qui est vraie partout dans le monde.
À l'échelle nationale des pays qui partagent les ressources avec d'autres.
Et donc, le seul point, en tant qu'agronome qui a beaucoup travaillé sur les ressources alimentaires des humains, eh bien, c'est simplement de dire aux élus, continuez à avoir une intelligence de l'eau, quelles que soient les limites administratives.
Voilà, donc pour ce qui concerne l'eau, et puis maintenant on passe un petit peu au reste de l'alimentation.
Alors,
enfin, tu n'as pas tout à fait parlé encore des mesures de protection de l'eau.
Voilà, alors sur les mesures de protection de l'eau, alors, donc, pour terminer sur ce chapitre de l'eau, alors pour donner un peu de goût aussi, il ne faut pas oublier que l'eau, c'est ce qui fait d'abord le café, l'eau, c'est ce qui fait la bière. Nous sommes dans des territoires où, entre café et bière, on sait qu'il faut faire attention à l'eau. Voilà.
Ce qui a fait aussi la richesse industrielle au départ.
Absolument. Hein, on n'oublie pas le nombre de brasseries qui existaient dans
C'est aussi la qualité de l'eau qui a fait les papeteries, qui a fait le textile dans les Vosges, à la fois pour la qualité de l'eau et puis la force motrice. Hein.
Donc nous avons historiquement, je vais dire ça, des compétences de l'eau absolument remarquables. Il faut les garder, les remettre à jour, et c'est un des enjeux pour les Vosgiens.
Donc il y a eu, il y a quelques années, la mise en place des périmètres de protection autour des sources, etc. Et maintenant, il faudrait aller un peu plus loin.
Alors, l'enjeu actuel, et là on est en période donc, démocratique de choix des élus locaux, et c'est vraiment important pour l'avenir de nos territoires. Et le point que je voulais illustrer, c'était que ces élus, donc, ils ont une responsabilité sur un certain nombre d'années, quoi. On a la durée d'un mandat, voilà. Or, l'eau, parfois, les ressources en eau, elles sont beaucoup plus vieilles que la durée d'un mandat. Et l'amélioration d'une ressource en eau, le travail pour faire en sorte qu'une aire d'alimentation de captage reproduise une eau de qualité et pas une eau remplie de pesticides ou de nitrates ou de PFAS. Eh bien, il faut donc mettre en place des mesures sur le très long terme. Et donc, très rapidement, en 20 secondes, vive les obligations réelles environnementales qui, de la loi de 2016, permettent de protéger ces ressources pour une longue durée.
OK. Ben, les obligations réelles environnementales, c'est des contrats de gestion des terres agricoles avec effectivement des engagements. Hein, sur une agriculture.
Voilà, sur une agriculture, une foresterie qui protège l'eau sur la très longue durée. Une obligation réelle environnementale peut durer 99 ans. Et là, on est dans le cadre vraiment de mesures sérieuses.
Donc ça, c'est une loi de
2016.
Voilà, qui, du coup, est à disposition des élus. Encore faut-il qu'ils s'en saisissent. Hein, donc là, c'est plutôt les élus des intercommunalités qui devraient réfléchir aux différentes zones d'alimentation en eau potable et réfléchir à comment contractualiser avec les agriculteurs du territoire pour préserver une eau de qualité. Hein.
Et quand on dit 99 ans, c'est non seulement les humains présents, mais bien sûr les enfants des humains présents, les petits-enfants des humains présents, les arrière-petits-enfants des humains présents.
Voilà, on c'est-à-dire emprunte notre planète à nos générations.
Il faut qu'on
futures.
Anticipe pour eux tous.
Voilà, donc après, encore faut-il effectivement que les élus réussissent à se saisir des moyens qui sont à leur disposition. Voilà, on va faire une petite pause musicale avant d'aborder une autre partie du sujet. Voilà, donc l'eau c'est bien, mais on ne se nourrit pas que d'amour et d'eau fraîche, donc il faut prévoir aussi le reste de l'alimentation. Donc autrefois, les gens se nourrissaient avec ce qui était cultivé autour d'eux. Hein, donc il y avait les marchés qui permettaient de rencontre entre les producteurs et les consommateurs, ou alors c'était directement les consommateurs qui allaient à la ferme chercher les légumes dont ils avaient besoin, les fruits et légumes. Hein. Et puis les choses ont changé.
Oui. Alors il est vrai que... Alors il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que les fruits et légumes continuent à être des produits absolument indispensables à l'alimentation humaine, mais lourd. C'est-à-dire qu'on explique aussi pourquoi on faisait des jardins, des chenevières tout près de là où les humains mangeaient. Eh bien, c'est parce que transporter 100 kilos de patates, c'est quand même transporter 100 kilos de patates. Donc, vaut mieux les faire sur 100 mètres que les faire sur 10 kilomètres. Voilà. Et donc, chacun chaque village, donc les chaudières étaient célèbres pour ça, là, donc là où on faisait pousser à la fois le chanvre et les autres, qui faisaient toutes les textiles pour les cordes, j'en passais des meilleurs, et tous les légumes. Et petit à petit, ces légumes, y compris dans ce qu'on appelait les jardins de champs, c'est-à-dire on faisait des grands jardins dans des morceaux de parcelles cultivées, ont disparu, en tout cas se sont beaucoup, beaucoup restreints.
Par en particulier la spécialisation, voilà. Hein, parce qu'effectivement, le modèle de la ferme de polyculture qui permettait effectivement de produire tout un tas de choses, ce modèle a disparu au profit d'une idée de la rentabilité et puis de tout le système économique, machines, engrais, semences... Tout s'est mêlé pour aller vers une spécialisation des fermes qui, du coup...
Oui. Et puis de l'autre côté, là, si je prends du côté de celles et ceux qui préparent à manger, hein, donc soit dans les maisons, soit dans les cantines scolaires ou autres, eh bien, la recherche d'alimentation dans des grandes surfaces qui offraient tout, et là, je vais encore parler de logistique. C'est l'invention de cette petite remorque qu'on pousse là. Hein, je ne donnerai pas de nom de publicité de remorque, mais qui permet dans les grandes surfaces de tout mettre dans le chariot. Fait que les carottes, elles étaient dans un sac. On les mettait dans le chariot et elles complétaient l'ensemble des courses.
Déjà lavées, tout.
Plutôt que d'avoir à les chercher dans le jardin, les faire pousser, les laver, les éplucher. Voilà.
Voilà, de qualité égale, diamètre calibré, etc. Avec, un gaspillage énorme pour tout ce qui n'est pas dans la norme.
et donc, c'est construit, en fait, petit à petit, on va dire... Des réseaux d'alimentation
qui sont avec un modèle industriel.
Voilà, qui sont des réseaux, ce que j'appelle de gros tubes, quoi. C'est-à-dire que c'est des énormes camions qui viennent des marchés d'intérêt nationaux. Alors, Rungis est le plus célèbre, mais il y en a d'autres, qui alimentent des centrales, qui elles-mêmes alimentent des supermarchés, et qui eux-mêmes donnent de l'alimentation à nos concitoyens.
Au lieu d'acheter les carottes à quelques kilomètres, finalement, les carottes qui sont cultivées quelques kilomètres plus loin vont jusqu'à Rungis et reviennent.
Ah bon, on a des trajets qui sont remarquables quand on fait l'ensemble du trajet que fait la carotte, le yaourt. Enfin,
quand ça ne vient pas de l'autre bout du monde et de l'autre côté de la planète dans la saison et qui ne convient pas.
Voilà. Et donc, cette alimentation... que je vais appeler de très gros volumes, c'est accompagné aussi des très grandes distances. Et je pense qu'une des raisons majeures de cette possibilité-là, comme dirait Bruno Latour, c'est quoi la condition d'existence de ce modèle ? La condition d'existence numéro un, c'est un prix de l'énergie très peu cher.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut que les camions puissent rouler avec une énergie peu chère. Il faut que, depuis les champs, jusqu'aux coopératives et ensuite au marché d'intérêt national. Tout cela se fait avec des transports qui, effectivement, ont un coût peu cher parce que l'énergie, objectivement, est peu chère. Et les énergies fossiles actuelles sont peu chères. Bon, on est en pleine période où on se rend compte que les champs d'extraction d'énergie fossile ne sont peut-être pas si accessibles que cela quand des drones, des obus et des missiles tombent de partout. Voilà, c'est juste pour l'actualité du jour. On s'aperçoit que cette énergie très peu chère, elle est aussi très organisée au niveau planétaire, quoi. Enfin, c'est ce que l'on voit tous les jours en ce moment.
Voilà. Et en même temps, à une époque, on connaissait qui était le producteur. Hein. Maintenant, en fait, ce réseau industriel, c'est une anonymisation des producteurs, une anonymisation de tous les intermédiaires et finalement pour aboutir à ce que finalement le prix que paye le consommateur, il n'y en a qu'une très faible partie qui revient à l'agriculteur. Donc ça c'est la rançon. Alors maintenant on est dans une démarche où on essaye de reprendre les choses différemment. Hein. Et comment est-ce qu'on peut accompagner, effectivement, le fait de renouer avec des relations directes? Il y a quand même beaucoup de choses qui se font, relations directes entre le consommateur et le producteur, à travers en particulier les AMAP qui se développent dans beaucoup d'endroits. Pour l'instant, ça concerne qu'une fraction relativement limitée des consommateurs, mais ça pourrait devenir plus important.
Alors, il est clair qu'un modèle ancien qui a encore toutes ses vertus pour l'avenir, c'est le modèle des ceintures vertes autour des villes. On avait autour de toutes les villes, et ça ne concerne pas que les Vosges, la Lorraine, et c'était très, très systématique en Europe complète, quoi. On avait autour de toutes les villes des ceintures vertes où se trouvaient des horticulteurs qui produisaient des légumes qui ensuite étaient commercialisés au marché de la ville. Voilà. Et les habitants, munis de paniers ou d'un petit animal porteur, allaient chercher ce qu'il fallait pour la semaine ou la quinzaine. Et ces ceintures vertes ont eu en fait un... Eh bien, elles ont joué de malchance, quoi. Elles ont eu en particulier un défaut majeur, c'est qu'elles étaient à côté des villes. Donc, quand les villes se sont mises à grandir, exactement, oui. Eh bien, les premières touchées ont été ces ceintures vertes, qui avaient plusieurs qualités, hein, je veux dire... alors que ça s'appelle les vergers de Chantraine, que ça s'appelle la ceinture verte de Lunéville, très célèbre pour ses melons, que ça s'appelle les horticulteurs autour d'Épinal. Eh bien oui, c'était des terrains qui étaient plats, c'était des terrains qui étaient en plus riches. Et donc, pour bâtir, c'était absolument parfait. Enfin, je veux dire, les réseaux d'eau étaient toutes proches, les maisons qui s'y construisaient étaient donc proches de la ville. Et en plus, les jardins qui étaient derrière produisaient bien. C'était des anciennes terres maraîchères d'excellente qualité. Et donc, ces ceintures vertes ont été en fait noyées par l'urbanisation des années 60, 70, 80. Et elles n'existent plus. Et l'enjeu actuel pour l'avenir, c'est de reconstruire des zones de production proches de là où sont les consommateurs, parce que je reviens encore sur les aspects logistiques. Les kilos de pommes de terre est encore un peu lourd, quoi. Donc il vaut mieux qu'ils soient produits pas loin de là où je vais les grignoter. Et donc l'idée, c'est vraiment maintenant de reconstruire des ceintures vertes de production de légumes variés et de fruits variés qui permettent d'alimenter villages, bourgs et grosses villes de façon la plus élégante possible.
Certains raisonnent même aussi en termes de besoins des sols, en disant finalement toute cette matière qu'on a exportée d'une zone de culture vers la ville, où finit cette matière, hein? Les Chinois, par exemple, collectent les urines pour utiliser l'azote pour fertiliser les sols. Donc effectivement, on a beaucoup de matière qui rentre dans la ville et qui en ressort par les stations d'épuration. Peut-être qu'effectivement, y aurait moyen de récupérer à travers des systèmes des toilettes sèches, etc. Peut-être qu'un jour, on y viendra. En tout cas, c'est des réflexions qui se font dans certains quartiers.
Voilà. Alors, en tant qu'agronome, une seule précaution, faire en sorte que ce que les humains produisent soit de qualité.
Voilà, en particulier par rapport aux médicaments.
Médicaments et puis ne pas mettre trop de nettoyants efficaces.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc du coup, cet enjeu de maraîchage autour des villes, c'est quelque chose qui se développe.
Alors c'est pour moi le principal enjeu sur lequel il faudra travailler à l'avenir, c'est d'être capable de produire autour de nos villes pour les habitants des villes, qu'ils soient cantines ou qu'ils soient habitants de famille, hein, individuelle, une alimentation très riche. Et là, le dernier plan national nutrition santé est très clair, une alimentation essentiellement composée de légumes et de fruits.
Voilà, donc c'est là que effectivement l'environnement et la santé se rejoignent, avec éventuellement aussi le porte-monnaie, puisque finalement une alimentation au plus près avec donc une consommation de légumes produits au plus près, ben, finalement ne revient pas plus cher que des circuits très compliqués avec tout un tas d'intermédiaires qui se font donc ben, effectivement des salaires et du bénéfice sur le prix. Donc, on va faire une deuxième pause musicale, puis on reprendra dans un instant. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh.
La rencontre en chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des
Scooby-Dooby-Ooh, ah.
Pommes,
pommes,
poires,
poires
et des Scooby-Dooby-Ooh, ah.
Scooby-Dooby-Ooh.
On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires,
des Scooby-Dooby-Ooh.
Pomme,
pomme,
poire,
poire,
et des Scooby-Dooby-Ooh,
ah. Scooby-Dooby-Ooh.
Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour. Faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt, elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers.
Des pommes, des poires,
des Scooby-Dooby-Ooh,
ah.
Pommes,
pommes,
poires,
poires,
des Scooby-Dooby-Ooh,
ah. Scooby-Dooby-Ooh.
La leçon que j'en ai tirée, facile à deviner, célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer
des pommes, des poires
et des
Scooby-Dooby-Ooh,
ah. Pommes,
pommes,
poires,
poires
et des
Scooby-Dooby-Ooh,
ah.
Scooby-Dooby-Ooh,
ah.
Scooby-Dooby-Ooh,
ah.
Voilà, on reprend le cours de l'émission avec cette idée des ceintures vertes qui peuvent nourrir les populations autour en particulier des villes. Pour moi, ça évoque le problème de la maîtrise foncière et le fait que les communes devraient réfléchir à acquérir, si elles n'en ont pas, des terres agricoles pour justement permettre l'installation de nouveaux agriculteurs, de maraîchers qui pourront nourrir les populations. Donc, plutôt que de laisser... En particulier, l'enjeu, il est aussi sur le fait qu'un certain nombre d'agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, vont partir en retraite. Et qu'est-ce qui va arriver derrière? Est-ce que, du coup, c'est une opportunité pour certaines communes de récupérer du terrain agricole qui pourra être mis en location, en bail, etc.
Alors, absolument. Les élus des communes sont déjà propriétaires d'un certain nombre de terrains agricoles. Et en moyenne en France, donc, on évalue à 14% de la surface agricole utile de la France dont les communes sont propriétaires. Alors pour l'instant, ce sont des terrains qui sont donnés en bail à ferme, donc le bail à ferme classique, à des agriculteurs qui les cultivent de la même façon que les autres parcelles, que leurs propriétaires soient notaires, retraités, trois petits points. Et donc l'enjeu, en fait, est double dans le sens où il faut à la fois, je pense, une direction donnée par les communes, clairement. Et là, elles peuvent le faire sous forme de ce qu'on appelle du maraîchage public ou des fermes publiques, pour prendre le terme plus générique, où elles-mêmes s'engagent à produire un certain nombre d'aliments pour, leur population, pour être encore plus précis, pour les cantines de leurs écoles et les cantines des EHPAD publics. Et ça, c'est une première étape, j'allais dire, qui permet de faire sur des terrains dont les communes sont propriétaires, autour, si possible, pas trop loin du centre du bourg ou de la ville, de produire une partie non négligeable de l'alimentation de la cantine. Et la deuxième partie, pour reprendre la suite de ce que tu avais dit, c'est effectivement de construire des contrats avec des producteurs. Alors le contrat engage la responsabilité des deux parties, hein, c'est-à-dire que la commune s'engage à acheter un certain nombre de produits sous un certain nombre de conditions, et les producteurs s'engagent à les produire pour que la commune puisse, entre guillemets, faire en sorte que les cuisiniers qui sont en charge des cantines soient les plus heureux possibles, parce que c'est eux qui sont au bout de la chaîne et qui font les assiettes pour les gamins ou nos anciens.
Voilà, finalement, le monde agricole était très, très capitaliste avec l'entreprise individuelle. Chaque ferme est une entreprise individuelle. Les prix qui tirent vers le bas, des problèmes de rentabilité, les soucis de revenus d'agriculteurs. L'idée, ce serait peut-être de reprendre possession des filières avec, pourquoi pas, donc, cette notion de ferme publique, hein, et finalement d'agriculteurs. Rémunérés, de toute façon ils sont déjà rémunérés en grande partie par la PAC, hein, donc en tout cas certains, hein, peut-être pas ceux qui sont plutôt les maraîchers, c'est plutôt les monocultures industrielles qui sont rémunérées par la PAC, hélas, mais ça c'est les orientations de la PAC qui sont définies par chaque État. Et ça, c'est la responsabilité gouvernementale et de cette espèce de co-gestion depuis de nombreuses années qui a orienté l'argent de la PAC. En tout cas, donc, c'est une reprise en main par la collectivité de son circuit d'alimentation.
Oui, et puis, alors, il y a deux éléments. C'est d'avoir dans une commune qui a envie de le faire, je vais dire ça comme ça, d'avoir une ferme publique, ça donne une direction très claire, ça montre que les élus sont intéressés par un type d'alimentation de qualité pour leurs citoyens. Et je pense que ça aide aussi à structurer des filières très courtes, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par d'énormes voies de transport, eh bien, ce qui est produit par exemple la ferme publique d'Épinal, je pense que les légumes font au maximum 2,8 km avant d'arriver dans l'assiette des enfants, des écoles, quoi. Et donc, c'est quand même mieux que de passer par Rungis et de revenir ensuite, quoi. Et cette économie de transport, ça fait moins de camions sur les routes. Voilà. Donc là, je pense aux services qui entretiennent les routes. Ça fait quand même des goudrons qui se font beaucoup moins tasser par des routes de camions lourds. Et le deuxième point, c'est que ça permet aussi des actions pédagogiques remarquables. C'est facile de faire visiter aux enfants des écoles d'où viennent les légumes qu'ils ont eus dans l'assiette. Et ce point des fermes publiques, j'allais dire, quand il y a des services communaux d'espaces verts un peu étendus, ça peut complètement se greffer sur les services d'espaces verts. D'autant plus que maintenant existe une fiche métier qui n'existait pas, donc ça c'est l'invention toute récente de l'année 2025. Il existe maintenant une fiche qui est agriculteur municipal, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on avait plein de fiches de techniciens d'espace vert. Mmh. Et maintenant, il y a une fiche de... quelqu'un dans une commune peut complètement avoir comme métier, je fais pousser consciencieusement des légumes pour les habitants de la commune. Donc ça, c'est une première étape qui peut vraiment être développée et qui donne pour moi du sens à l'ensemble de la population, y compris les agriculteurs, qui sentent bien à ce moment-là que les communes sont intéressées par un point. J'aime bien que l'alimentation pour ceux dont j'ai la charge, c'est-à-dire les cantines scolaires et les EHPAD publics, eh bien, soit faite au mieux chez moi. Voilà.
Oui, oui, les agriculteurs actuels sont tous pris dans des endettements, se sont endettés pour du matériel, pour une fuite en avant industrielle. Il faut saisir l'occasion souvent d'un passage de relais avec effectivement la retraite et le démarrage par des jeunes. Après, globalement, les jeunes ont reçu une formation qui commençait à présenter ce modèle-là. Donc, alors effectivement, ils sont souvent... ceux qui sont déjà issus du milieu agricole sont souvent plutôt dans la continuité, dans un modèle qui est déjà ancien. Mais les nouveaux agriculteurs qui ne viennent pas du milieu agricole, eux, sont très ouverts et très réceptifs à tout ce discours nouveau.
Oui, et il y a un dispositif, donc les plans d'alimentation territoriaux, donc issus aussi de cette loi Egalim. En gros, alors je ne vais pas rentrer dans la loi, c'est facile à les regarder. avec son internet préféré. Mais les deux points importants, c'est de dire qu'une partie importante de l'alimentation donc, doit être d'origine d'agriculture biologique. Donc ce qui a un autre avantage quand on relie les deux sujets, c'est que ce sont des cultures sur lesquelles les intrants sont très limités. Ce qui fait que pour la protection des eaux, c'est quand même très bien. Voilà, comme ça, je relie la conduite de la carotte à la qualité de l'eau sous la carotte. Et le deuxième point, c'est que la loi demande à ce que 50% des produits consommés dans les cantines viennent de la proximité, du circuit court. Et je trouve que pour les agriculteurs pour qui les situations économiques ne sont pas toujours simples, c'est le moins qu'on puisse dire, avoir un contrat avec une commune qui assure pendant des années un revenu stable, parce que j'ai contractualisé avec un acteur qui sera là pendant très longtemps. Enfin, nos communes ont déjà dépassé les deux siècles et je pense que dans deux siècles, on en parlera encore. Et donc, je trouve que d'avoir des contrats stables avec des communes, c'est mieux que d'être dépendant du prix du blé qui, de temps en temps, nous fait, il y a 3 ans, rêver en étant au sommet, voilà, oui, suite à la guerre en Ukraine, voilà, tout était au maximum. Et puis l'année dernière, la production a été importante, des très bons rendements, mais le prix n'a pas été au rendez-vous. Mm-hmm. Parce que le prix, à l'heure actuelle, n'est absolument plus contrôlé par les agriculteurs.
Oui, oui, tout
alors
à
que
fait.
De faire un contrat avec ma commune, d'à côté, eh ben, ça peut me sécuriser sur 6 ans. Bon, dans la vie actuelle, avoir un contrat qui permette de sécuriser les revenus sur 6 ans et de savoir comment je vais gérer mon assolement, ce que je peux préparer dans mes plans de culture, je trouve que pour un agriculteur, c'est pas mal d'être un peu serein en ce moment.
Et tout ça, c'est gagnant-gagnant, puisque effectivement, le producteur, lui, va s'y retrouver avec des prix assurés. Et en même temps, le consommateur, finalement, la collectivité qui passe ce contrat, finalement, elle élimine tous les intermédiaires. Et financièrement, le prix de revient n'est pas plus cher, et voire peut-être même moins cher.
Ça, c'est clair. Et je finirai par quelque chose. C'est pas grave que l'argent des habitants d'une commune qui paye la cantine plus ce que la commune subventionne dans la cantine revienne à des agriculteurs juste à côté. Ma foi, c'est pas pire d'enrichir des agriculteurs qui sont des voisins que d'enrichir des agriculteurs qui sont des lointains.
Surtout si en plus ils contribuent à la qualité de l'environnement autour de nos villes.
Absolument.
Voilà, donc on va passer à une nouvelle pause musicale. Lou, merci.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found
in a yellow submarine, yellow submarine, yeah.
Vas-y.
Et donc, pour revenir à ces initiatives d'élus avec des fermes publiques pour alimenter les cantines publiques, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il existe un réseau national, donc le réseau national des fermes publiques, qui permet à de nouveaux élus qui voudraient s'y mettre, pour le faire un peu trivialement, d'avoir un réseau de collègues, de confrères qui ont déjà fait la même chose, qui peuvent donner les trucs et ficelles, les pratiques qui marchent. Et là, en particulier, je voulais faire un petit clin d'œil aux élus de Mouans-Sartoux, donc très au sud de chez nous, hein, on est dans le Var, mais qui, depuis 28 ans, ont initié une expérience qui continue à bien marcher de maraîchage public qui permettent de nourrir les cantines de la commune.
Et
Épinal fait partie maintenant de ce réseau et a même eu la chance de voir, en gros, le réseau naître dans la ville d'Épinal l'année dernière quand toutes ces communes se sont réunies en réunion annuelle.
Du coup, donc, il y a un partage d'expérience qui peut largement aider ceux qui voudraient un petit peu se lancer dans cette aventure.
Hein. Complètement. Et c'est vrai, alors là, en tant qu'agronome non élu, c'est pour encourager les futurs élus à travailler ce genre de matière qui n'est pas forcément facile. Mais à partir du moment où existe un réseau, où existent d'autres qui ont déjà beaucoup d'expérience, ça permet de démarrer avec le soutien d'autres élus qui sont dans les mêmes situations et qui ont déjà résolu plein de questions et de problèmes. Et ça, ça aide bien. Je trouve que l'intérêt des réseaux dans ces cas-là, c'est de pouvoir se faciliter la tâche. Quand on commence une nouvelle tâche, c'est bien d'avoir des petits frères, des petites sœurs qui ont déjà fait ça.
Voilà, surtout savoir où on met les pieds, surtout quand il s'agit de finances publiques.
Et donc, sur ces suites de maraîchage, la deuxième dimension, pour moi, c'est de vraiment développer donc les plans d'alimentation territoriaux avec des contractualisations entre des acteurs pour faire en sorte que, petit à petit, se sert des... Et dans les Vosges, il y a vraiment des initiatives vraiment intéressantes, tant au niveau départemental que de plusieurs projets de plans d'alimentation territoriaux, qui permettent comme ça de relier des producteurs à des consommateurs en jouant le plus possible, la proximité, mais plus encore que la proximité, moi, je trouve, c'est que ça dure dans le temps. Oui. C'est-à-dire que le contrat...
Et l'organisation des réseaux, voilà, pour la pérennité d'effectivement des
on
réseaux.
On ne le fait pas sur un an. On fait en sorte qu'avec des contrats longs, on puisse assurer des producteurs en disant... Pas de souci, on prendra les lentilles, les carottes et les pommes, mais pas sur un an, sur plusieurs années. Parce que la production agricole nécessite quand même une certaine sécurisation. Et ça, c'est important, à savoir pour les producteurs aussi.
Voilà, donc tu viens d'aborder très rapidement l'histoire des légumineuses, en fait. Hein. Effectivement, les légumineuses avaient plus ou moins disparu de nos cultures locales. Hein, et maintenant, elles refont leur apparition avec des producteurs de légumineuses dans les Vosges.
Oui, alors, il y a deux dimensions. Alors, la première dimension, si on parle de l'assiette, c'est que les légumineuses ont eu de très mauvaises réputations dans l'assiette, quoi. Les faillots, enfin, quand on disait encore une assiette de faillots, c'était pas pour dire beaucoup de bien des faillots, quoi.
Voilà, oui, c'était plutôt référence au temps dur, hein, pour nos anciens. Ça rappelait effectivement l'occupation, la période de la Deuxième Guerre, où finalement il y avait des pénuries alimentaires. Hein, et il fallait se nourrir de topinambours, de haricots secs, enfin voilà.
Hein, Or, ces légumineuses, alors là, c'est des collègues qui travaillent maintenant sur le fonctionnement de... Bah oui, on a des mammifères et on a un tube digestif, quoi. Sur notre fonctionnement à nous, eh bien, qui les nutritionnistes montrent vraiment que les légumineuses... Et on comprend pourquoi l'homme, en tant qu'homo sapiens, espèce, a évolué avec le mélange légumineuses-céréales. C'est-à-dire voilà. Qu'il est clair que dans l'assiette, d'avoir à la fois légumineuses et céréales assure une base alimentaire absolument remarquable. Je veux dire, impossible d'être en mauvaise santé en ne mangeant que beaucoup de pois, haricots, lentilles, sous toutes les formes que les cuisiniers savent faire.
Pois et haricots secs.
Alors, bien sûr.
Attention, ce n'est pas les haricots verts qui vont nous...
Et ce qui est génial, non mais ce qui est en plus génial, c'est que ça nous ramène au début de l'humanité. C'est-à-dire que ces plantes-là ont aussi un aspect merveilleux, c'est que pendant la mauvaise saison où pas grand-chose ne pousse, eh bien ça permettait de faire des stocks de graines qu'on pouvait consommer pendant toutes les mauvaises saisons en ayant de quoi tenir jusqu'à la belle saison. Et ça, il faut avoir... Donc voilà. Donc, moi, en gros, l'Homo sapiens, il a quelques centaines de milliers d'années derrière lui et il les a grâce aux légumineuses. Donc, pour revenir à leur culture... Alors, ça, j'étais du côté du tube digestif. Donc, pour tous les auditeurs et auditrices, c'est sans faute. On peut y aller.
Et je voulais compléter un petit peu parce qu'effectivement, c'est le versant santé aussi. Hein, puisque donc, effectivement, pour la santé, les légumineuses, la complémentarité légumineuse-céréales permet d'assurer donc, finalement la base de l'alimentation à laquelle il suffit d'ajouter des fibres.
Exactement.
Hein, des fibres avec
en
les
plus,
légumes.
Voilà.
Et une richesse éventuelle en vitamines et en minéraux avec tout un tas d'autres, une alimentation la plus diversifiée possible au niveau des légumes et des fruits. Mais ces fruits ne sont pas obligés de venir de l'autre bout du monde.
Hein. Non, ça c'est clair. Et pour revenir aux fibres, même les légumineuses et les céréales, alors bon... Par sécurité sanitaire, quand même, il vaut mieux les prendre sans traitement de pesticides parce qu'il vaut mieux les manger complètes.
Voilà. Surtout que les pesticides sont surtout dans les enveloppes,
les
enveloppes du grain en particulier.
Et donc, les manger complètes, c'est idéal, mais à ce moment-là, il faut les manger plutôt carrément bio. Voilà. Mmh. Et le dernier point sur l'ajout fruits et légumes, c'est vrai, ça permet de compléter tout ce qui est les anthocyanes, les vitamines supplémentaires, qui ne serait pas dans cette base, j'allais dire, légumineuse céréale. Quoi.
Qui pourrait l'être un petit peu si on retrouvait aussi peut-être des variétés anciennes. Parce que, si je prends l'exemple de la carotte qu'on achète de manière classique ne contient pas beaucoup d'anthocyanes, alors que, par exemple, les carottes violettes en contiennent beaucoup.
Voilà. Mmh. Alors, on a un problème avec les Vosges, c'est qu'on est célèbre pour la carotte blanche des Vosges.
Voilà, qui n'en contient pas.
Qui en contient peu, voilà. Mais elle a tous les autres avantages. Et donc, il suffit de compléter par de la betterave rouge et on a récupéré.
Voilà, tout à fait. Hein, d'où l'intérêt d'une alimentation variée.
Et pour revenir aux agriculteurs, la deuxième dimension absolument géniale des légumineuses, donc là, en tant qu'agronome, je trouve elles sont géniales, ces plantes, c'est que les légumineuses, elles fabriquent leur azote tout seul. Or, l'azote, on sait tous, pour faire pousser les végétaux, eh bien, les végétaux ne poussent sur la planète Terre qu'en absorbant des nitrates présents dans le sol. Et les légumineuses, par leur symbiose, font que les bactéries leur fabriquent des nitrates gratuitement, qui servent à elles. Si on fait en mélange céréales-légumineuses, les céréales se servent dans les excès présents autour des rhizobiums des légumineuses. Et on a donc, comme ça, très vite, des synthèses qui permettent, alors là, je vais reparler encore d'énergie, qui permettent d'économiser les engrais azotés, qui sont extrêmement coûteux à fabriquer en énergie. Quoi. Et donc, de passer aux légumineuses dans l'assiette des consommateurs, il faut que les consommateurs sachent que dans tous les paysages agricoles, ça permet des énormes économies d'engrais azotés fabriqués par des énormes usines qui, pour l'instant, sont plutôt beaucoup en Russie.
Et en plus des engrais azotés qui dégagent du protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre.
Et donc ces légumineuses ont un double effet qui se coule, pour utiliser un mot pas très français. Mais double bisou, ça se comprendra bien. Et ça va bien dans notre tube digestif et elles vont très bien aussi dans les champs.
Voilà. Bon, après, il faut savoir les préparer, les cuisiner, etc. On a peut-être un peu désappris tout ça. Après, c'est aussi le choix du consommateur, justement, d'aller vers une alimentation qui qui est reconnue comme celle qui va nous maintenir en bonne santé, hein, le plus longtemps possible, avec l'idée aussi donc de choisir une alimentation à base de produits locaux au lieu d'acheter des produits en contre-saison, par exemple, hein, certains produits qu'on achète en hiver, des produits frais, ils viennent de l'autre côté de la planète. Hein, après, on mange par exemple de plus en plus. Le premier fruit qui est consommé en France actuellement, c'est la banane. Donc, avant, c'était les pommes et les poires qui étaient cultivées ici. Maintenant, c'est la banane qui vient. Elle vient comment, la banane?
Elle vient. Alors, elle a l'avantage de venir par bateau. C'est oui, pas forcément le pire. Voilà. Après, il y a les camions. Oui, oui.
Voilà.
Mais c'est vrai que. Donc, ça, c'est un des premiers points. Et puis, l'autre point, alors, je voulais rendre hommage justement à tous ces cuisiniers qui préparent les repas des cantines. Parce qu'eux ont un talent pour faire en sorte que voilà, toutes ces légumineuses, fruits, légumes fassent bien dans l'assiette. Et je trouve qu'un petit truc qui serait vraiment génial, c'est que les cuisiniers qui préparent les assiettés de tous les jeunes Vosgiens, Vosgiennes dans les cantines, quand ils travaillent très bien, et c'est quand même très souvent le cas, puissent donner leurs recettes. Ce serait un truc tout simple, je trouve. Donner leurs recettes aux élèves qui les ramèneraient à la maison.
Et les donnent à leurs
parents. Et comme ça, comme les repas sont vraiment de plus en plus équilibrés donc dans les cantines scolaires, ça permettrait d'avoir un retour de comment faire des repas équilibrés à la maison. Et d'avoir le truc et ficelle des cuisiniers vers la cuisine familiale.
Voilà, donc on arrive au terme de cette émission. Merci Marc
Merci.
Pour ton intervention aujourd'hui qui complétait donc celle d'hier et qui va tout à fait dans le sens de toutes ces émissions vers un meilleur environnement pour l'avenir de notre planète. Merci Lou pour la technique. Au revoir.